Deutsche Welle, Économie et développement.
La broderie pour assurer un avenir professionnel à des filles et des garçons, c'est le pari de la créatrice de mode marocaine Fadila El Ghadi. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis on parlera aussi des défis qui attendent la Centrafrique, la paix et la sécurité bien sûr, mais aussi la remise sur les rails de l'économie. Nous serons en ligne avec le représentant de la Banque mondiale sur place. Vous écoutez le magazine Économie et Développement, c'est Claire-Marie Costemann au micro, bienvenue. Salé, une ville voisine de la capitale marocaine, Rabat, c'est dans sa ville natale que la styliste Fadila El Ghadi a ouvert une école de broderie. Le but est non seulement de préserver un artisanat qui se perd, mais aussi d'enseigner un métier d'art à des enfants défavorisés, filles et garçons. L'école est gratuite. Écoutez le reportage de Stéphanie Wenger, notre correspondante au Maroc.
C'est dans une villa d'un quartier résidentiel de Salé que Fadila El Ghadi a installé son école de broderie. 13 enfants de 10 à 18 ans y apprennent les techniques traditionnelles, mais aussi des savoir-faire plus modernes. La créatrice nous explique pourquoi elle a été au bout de son envie.
L'idée, je l'avais depuis longtemps. Il faut dire que j'ai constaté qu'il y a une disparition dans tout ce qui est broderie. Et comme je travaille beaucoup avec la broderie, donc je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. Et je voulais aussi, c'était dans un but aussi de séduire les jeunes pour qu'ils acceptent d'apprendre. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas apprendre la broderie. Ils veulent tous être fonctionnaires, flics, voilà. Donc pour eux, la broderie, c'est un métier qui n'est pas valorisé. Donc je me suis dit, bon, si on fait un lieu agréable, où ils sont bien reçus, où ils sont bien accueillis, ou un lieu joli, ça va, et ça a très bien marché, parce que les enfants sont ravis, et ils viennent tous les jours avec plaisir pour apprendre, et ils ont fait beaucoup de progrès. C'est ça la richesse, c'est de pouvoir aussi transmettre.
La plupart des élèves n'ont pas été à l'école, ou alors pas longtemps. En plus de la broderie, l'école leur offre des cours de français, d'arabe ou de chant. Très vite, l'équipe s'est rendue compte qu'il fallait leur permettre aussi de prendre le petit déjeuner sur place ou de se laver. Najim Toul, le directeur de l'école, nous fait visiter l'atelier. L'endroit a été décoré avec goût, de la musique classique s'échappe d'un haut-parleur. Les élèves sont appliqués et mettent beaucoup de soin à suivre les consignes de Sandra, une de leurs professeurs.
Un enroulement autour de chacune des branches. Allez, chauffez, parce que là, il faut que tu prennes deux branches. Faut qu'elle prenne deux branches.
Sandra a enseigné dans un lycée professionnel en France, rien à voir avec ce qu'elle a découvert ici, mais elle se félicite de cette expérience et de la soif d'apprendre de ses élèves, comme ici avec Khadija, qui a 10 ans et déjà très motivée.
Bon, alors déjà, moi, mon expérience de lycée professionnel, elle date, il y a longtemps. Donc, mais ce qui est différent, déjà, bon, les jeunes, quand ils arrivent, ils ont déjà, normalement, ils savent lire et écrire, il y a tout un côté comme ça. Mais ce que je trouve ici super, c'est qu'il y a un enthousiasme. Tout le côté débrouille, hein, que j'aime bien. En France, les élèves, tous les matériaux sont payés par l'éducation nationale, on a des bons matériaux, on a des choses comme ça. Mais ici, du coup, ça nous stimule à aller rechercher des petits trucs, les transformer. Là, on s'est mis à broder avec du fil à coudre. En France, on m'a jamais appris à broder avec les fils à coudre. Et en même temps, eh ben, ça donne un effet qui est vraiment intéressant, on combine des choses. Donc, c'est presque plus riche.
Houda, elle fait partie des grandes. À 18 ans, la jeune fille fait preuve de beaucoup de talent, juge Najib, le directeur. Pourtant, comme Houda nous l'explique, elle qui a quitté l'école et ne connaissait pas grand-chose à la broderie, n'aurait jamais pensé pouvoir apprendre un métier qui lui plaise autant.
Comme l'école était, elle aussi, l'école était un peu loin de chez elle, et en plus les professeurs n'étaient pas à la hauteur, donc elle est partie de l'école. Et elle voyait la broderie dans les revues, partout dans la rue, tout, mais elle ne comprenait pas comment ils faisaient. Mais une fois qu'elle est là, elle adore ce qu'elle fait, elle a appris vite, elle adore ça. Elle adore tout ce qu'il fait, Randa, la perle, le perlage, la broderie. Et elle aimerait bien être comme Madame Fadila à l'avenir, donc être styliste, modéliste, brodeuse.
Madame Fadila.
À l'école de Fadila El Ghadi, il y a aussi des garçons et ils sont tout autant motivés.
Vas-y, dis-le. Je fais de la broderie.
Je fais de la broderie.
Avec Madame Sandra.
Avec Madame Sandra.
À Salé, il existe un type de broderie réputé. exécutée par des artisans hommes que l'on appelle les mo'allem, les maîtres. Pour Aïssa, 13 ans, avoir son atelier est un rêve qui est désormais au bout de son aiguille.
Lucie, il est doué. Elle est contente de son travail. Et lui, c'est ce qu'il veut faire, lui, comme Malem Abdallah. Lui, son idole, c'est le Malem Abdallah, pas Fadela.
Et quand Najib, le directeur, lui demande pourquoi il veut faire ce métier.
Il a de l'avenir, ce métier, il a de l'avenir au Maroc, c'est la couture traditionnelle.
Sandra est en train de vérifier les points que réalisent trois adolescentes. Elle aussi est sûre que ses élèves ont un avenir bien tracé.
Ah bah oui, elles vont être brodeuses. Non mais c'est sûr, pour certaines c'est sûr, si on continue comme ça dans les 2 ans c'est bon, elles peuvent travailler. Et puis il y en a d'autres où il faudra un peu plus de temps, mais s'il y a toujours cette énergie-là, oui oui. Puis il y a une demande, hein, si elles sont bien cadrées, si elles savent bien où elles vont, si en plus après elles savent aussi bien calculer leur prix, enfin faire des choses professionnellement, on va dire, elles sont presque uniques sur le marché quoi.
Pour l'instant, l'école est financée uniquement par les économies de Fadila El Ghadi. La créatrice a annoncé récemment consacrer une part des ventes de son parfum à son projet. En plus de cela, la solidarité s'organise. Un menuisier a réalisé des meubles gratuitement, un dentiste offre le suivi dentaire des enfants. Mais pour continuer à viser l'excellence et la pérennité de la formation, comme pour ouvrir une autre classe, le projet a besoin de soutien plus conséquent. À Salé, Stéphanie Wenger pour la Deutsche Welle.
Vous aurez peut-être reconnu Bibi Tanga, chanteur né à Bangui. La Banque mondiale a publié pour la République centrafricaine un plan de relèvement et de consolidation de la paix pour la période 2017-2021. L'un des grands axes est l'agriculture. Le président Faustin Archange Touadéra a lui-même insisté sur ce point. Il faut remettre nos agriculteurs au travail. 80% de la population vit dans l'arrière-pays où l'agriculture est l'activité principale. Donc agir sur l'agriculture, c'est agir sur 80% de la population, a-t-il dit. La Banque mondiale annonce notamment des plans de relance sur 5 ans pour le secteur agricole à hauteur de 390 millions de dollars et de 742 millions pour les infrastructures. Comment cela va-t-il se traduire sur le terrain? Écoutez les explications de Jean-Christophe Carré, représentant résidente la Banque mondiale en Centrafrique.
Pour relancer l'agriculture dans les deux secteurs, vivrier et commercial, on va lancer un grand programme de réouverture des routes en direction des principaux bassins de production agricole. On va accompagner ce programme de réouverture des routes d'un programme d'appui d'une part aux petits producteurs et puis on va lancer un programme aussi d'appui à la relance des filières commerciales qui sont elles importantes pour créer de l'emploi, notamment chez les jeunes qui aujourd'hui sont plutôt attirés par les groupes armés. Et aussi pour créer des recettes fiscales pour le gouvernement. On pense notamment, puisque le président nous l'a demandé, à aider le pays à relancer le secteur coton. Ces secteurs commerciaux devront être accompagnés de mesures, notamment pour améliorer le climat des affaires, de manière à ce que les investisseurs qui ont été présents et qui souhaiteraient revenir, ou de nouveaux investisseurs, puissent investir dans les chaînes de valeur, par exemple dans le coton.
Mais comment est-ce qu'on attire à nouveau des investisseurs, vu tout ce qui s'est passé, le conflit, la mauvaise gouvernance aussi? Vous l'écrivez dans le rapport, plusieurs décennies de mauvaise gouvernance. Comment est-ce que voilà, on attire à nouveau des investisseurs dans ce contexte?
Alors les deux raisons qui peuvent faire revenir des investisseurs, elles sont simples. La première, c'est que malgré tout, la Centrafrique représente un nouveau marché et les investisseurs sont toujours intéressés par de nouveaux horizons. Donc des gens qui sont présents au Cameroun ou au Gabon ou au Tchad ou ailleurs en Afrique de l'Ouest ou des groupes internationaux qui sont présents sur le coton ou sur la téléphonie mobile, enfin sur des secteurs qui sont importants, qui structurent l'économie, peuvent se dire la Centrafrique se réouvre maintenant qu'il y a eu les élections. que le gouvernement va faire des efforts. Donc nous voulons être présents parce que ça va nous permettre d'étendre nos parts de marché. La deuxième raison qui peut faire revenir les investisseurs, notamment ceux qui ont toujours eu un œil sur la Centrafrique ou qui ont été présents et qui le sont moins, c'est d'une part l'amélioration du climat des affaires. Nous sommes déjà à pied d'œuvre au travail avec le gouvernement pour regarder quelles sont les mesures rapides que pourrait prendre le président pour montrer un signal fort aux investisseurs d'amélioration du climat. Le deuxième facteur important, c'est l'amélioration du contexte sécuritaire. Alors, il y a quand même quelque chose qui a fondamentalement changé depuis 2 ans, c'est qu'il y a maintenant une force armée, les casques bleus des Nations Unies, au nombre de 14 000 aujourd'hui, qui sont déployés sur l'ensemble du territoire.
Ils ne vont pas rester forcément très longtemps et c'est dur aussi de refaire une armée. C'est un des points de difficulté de la nouvelle administration.
Oui, oui. Non, mais ce sont d'excellents points. Alors, évidemment, une force de maintien de la paix n'a pas vocation à rester éternellement. On voit quand même que dans la région, si on regarde les pays aux alentours où elle est présente, en général, elle est présente pour un certain nombre d'années. Le temps, justement, que l'État reconstitue son armée, y compris nous, groupe de la Banque mondiale, on s'intéresse à cette question du secteur de la sécurité, même si on ne peut pas, par nos statuts, investir dans le secteur de la sécurité, on peut y faire du travail analytique. On est en train de réaliser avec la MINUSCA une revue des dépenses publiques dans le secteur de la sécurité, justement pour voir comment ce secteur est géré par rapport aux autres. Et donc, malgré tout, c'est un pays où il y a eu de tout temps, notamment depuis les 20 dernières années, beaucoup d'insécurité. Ça fait fuir les investisseurs. Il y a maintenant une force qui est déployée et il y a une entreprise de reconstruction à la fois des forces armées et des forces de sécurité intérieure.
C'était Jean-Christophe Carré. Vous pourrez entendre la deuxième partie de cet entretien dans le prochain numéro du magazine Économie et Développement. Tous les podcasts sont à retrouver sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.